va donc demander maintenant à Hervé Letreux, que je vois, donc membre de l'Académie des sciences, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace et climatologue, bien entendu, de nous donner maintenant son point de vue.
Voilà, donc je vais vous parler d'un thème qui a... Alors, je n'ai pas pu être là tout le temps pour des raisons plus particulières, mais qui a été, je pense, moins abordé que d'autres, qui est celui de l'enseignement supérieur. Et c'était la motivation de cet exposé. Et donc, je suis enseignant à la fois à l'école polytechnique depuis 20 ans, professeur, et puis maintenant à l'université Pierre-Emmaille Curie. C'est un peu un retour d'expérience de ces conditions d'enseignement supérieur du climat que je voudrais faire aujourd'hui. Alors, c'est des recherches, enseignement, éducation, un lien nécessaire. Ce sont des domaines qui sont liés. Hein, ces trois mots ont des liens qui sont très forts. Alors, j'étais très sensible au discours de Pierre Léna ce matin, qui parlait d'éducation de manière très, très forte, en mettant dans le mot éducation, effectivement, toute la part de valeur et d'éthique qui peut l'accompagner. Je vais essayer d'être là plus concret. C'est vrai que par rapport à ces problèmes d'enseignement et d'éducation au réchauffement climatique, on se trouve aujourd'hui avec une situation un peu d'urgence et peut-être quelquefois un peu de volonté d'avancer de manière concrète. Alors, je vais essayer de toucher trois points. Le premier, c'est donc ce retour d'expérience en trois questions qui sont très inégales dans l'espace que je leur donnerai. L'éducation au changement climatique, dans quel but? Et alors, bien sûr, c'est dans quel but? Toujours en pensant que je m'adresse prioritairement à des élèves ou à des étudiants du supérieur. Quelles contraintes pédagogiques? Et puis ensuite, quels outils encore insuffisamment utilisés? Je crois qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations. Et ce qui me frappe, c'est que dans ces expérimentations, il y en a beaucoup qui pourraient être mises en œuvre un peu plus vite. Et c'est un peu la motivation de cet exposé, de voir si on peut faire quelque chose dans ce sens. Alors, dans quel but et pourquoi est-ce que c'est important de s'adresser du point de vue de chercheurs à des étudiants du supérieur? D'abord parce que je pense qu'on est face à un problème qui évolue de manière extrêmement rapide et qu'on n'en a pas toujours conscience. On a toujours un petit peu conscience, toujours une tendance à regarder ce problème comme un problème qui est posé depuis une vingtaine d'années, puis on n'avance pas beaucoup. En fait, vous avez ici la courbe des émissions de gaz à effet de serre, enfin en l'occurrence de CO2. 90, on pensait qu'on était arrivé à un stade où maintenant il fallait réduire les émissions, et c'était le sommet de la Terre de 92, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, dont est issu l'accord de Paris. Puis ensuite, entre 92 et 2016, aujourd'hui, que les émissions continuent d'augmenter, on est face à un problème où les choses ne sont pas figées. Et il y a besoin d'accompagner ce mouvement, et je ne vais pas parler de la science qui est derrière, mais il y a besoin d'accompagner une situation qui est en évolution rapide. Alors, cette évolution rapide, elle est aussi tributaire de choses qui sont à plus petite échelle. Vous avez ici un petit peu différente, mais liée à celle qu'a montrée ce matin Valérie, c'est la courbe de température, de température telle qu'elle augmente depuis 1880, donc sur une période un peu plus longue que celle qu'elle avait montrée. Et vous voyez qu'on a une augmentation qui est ponctuée. Alors, en rouge, c'est une moyenne lissée sur 5 ans. Mais en noir, on voit des épisodes qui sont compliqués à comprendre et qui sont la source de débats. Donc il y a un besoin de compréhension pour déchiffrer une actualité qui n'est pas facile à déchiffrer et qui se prête à beaucoup de débats qui sont souvent un petit peu mal informés. Et on a un diagnostic qui n'est pas compris par le plus grand nombre. Alors ça, c'est des enquêtes qui ont été faites, que j'ai pris d'un article de Daniel Bois, Sciences Po et l'ADEME. Vous avez ici une enquête question ouverte. En quoi consiste selon vous l'effet de serre? Et la réponse, les gaz, le CO2, ben, c'est, vous voyez, au fil du temps, d'entre 10 et 15% de la population qui est capable de fournir cette réponse. Et en fait, quand on y réfléchit, pour répondre à une question comme ça, il faut déjà avoir compris ce qu'est le rayonnement solaire, ce qu'est le rayonnement terrestre, pourquoi ils sont différents. Il y a un niveau d'éducation qu'on ne peut pas attendre de tout le monde, et ça pose un problème de savoir qu'est-ce que l'on veut donner comme clé aux gens, et y compris aux étudiants du supérieur, on est confronté à des gens qui ont fait des études scientifiques, dans mon cas, mais pas toujours celles-là, hein, des gens qui ont passé par des cursus de biologie, par exemple, on trouve, et qui ne sont pas nécessairement à l'aise pour répondre à ces questions-là. Alors, l'autre problème, c'est toujours pourquoi est-ce qu'on veut avoir une éducation de ces problèmes-là. C'est parce que je pense que, et ça a peut-être été dit, le poids de l'action publique sera vraiment nécessaire pour atteindre les objectifs de la COP21. Vous avez en bleu ici la courbe de diminution des émissions qui est imposée aujourd'hui par l'accord de Paris pour rester sous les 2 degrés. Ce sont des diminutions en termes de l'économie du charbon, du pétrole, du gaz naturel qui sont pratiquement des croissances à 2 chiffres pendant plusieurs décennies, des choses qui sont extrêmement fortes. Et je pense que sans le poids de l'opinion publique, ce sera extrêmement difficile. L'autre point, c'est qu'on est nécessairement maintenant dans un domaine où on est obligé d'arbitrer entre des risques climatiques, d'autres risques socio-environnementaux. Et il faut être capable d'expliquer à des étudiants ce qu'est un risque climatique, comment on le définit, comment on peut le comparer, quel sens il a. Et dans cette mesure où on sait maintenant que tout n'est pas prévisible dans le système climatique, il y a des éléments prévisibles, des éléments qui relèvent vraiment d'un certain chaos atmosphérique et qui ne sont pas entièrement prévisibles, cette notion de risque, elle est importante. Alors, après, plus près des motivations qui me concernent vraiment en tant que scientifique, moi, je suis frappé par le fait que les informations de la science ne sont pas toujours utilisées à leur juste valeur, et je dirais ne sont pas toujours utilisées du tout. On a ici... J'ai fait un travail d'expertise sur la région bordelaise, l'Aquitaine, il y a quelques années, qu'on est en train de recommencer. Il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui dans cet exposé, c'est de voir que sur un domaine comme celui-ci, on a trouvé, vous avez une liste d'experts, ici il y en a plus de 150, qui tous sont des chefs d'équipe, qui tous sont des gens connus au niveau international, rassembler le savoir qui permet d'avoir une image de ce que sera un jour le changement climatique sur un domaine précis, c'est ça. Enfin, il y a beaucoup de recherches qui sont là, qui sont prêtes à être collectées, qui sont prêtes à être mises en forme, et on s'y intéresse finalement assez peu. On donne assez peu la parole aux chercheurs et à la science dans ces domaines-là. Et il y a l'exemple, je ne vais pas insister, d'analyse des INDC auxquels on a été finalement conviés pendant la dernière COP21, qui n'a pas été non plus un domaine où les scientifiques ont été appelés, ce sont de manière aussi forte qu'on aurait pu le penser, au niveau international. Alors, je pense que il y a encore un dernier point, et c'est le problème quand on est enseignant, des emplois qu'on peut offrir à nos étudiants. Alors, quand on est étudiant dans des domaines scientifiques, on se rend compte que ce sont souvent pas toujours des scientifiques qui bénéficient de ces emplois-là. Donc, c'est tout un ensemble de problèmes qui font qu'aujourd'hui, on a envie, effectivement, d'avoir un enseignement un petit peu différent, parce qu'on se rend compte que l'enseignement qu'on donne n'est pas toujours au niveau des exigences du problème qui est posé. Alors, quelles sont les contraintes pour essayer d'avoir un enseignement un petit peu différent? Alors, il y a quelque chose qui est très général et qui a été, pour tout ce que j'en ai entendu, beaucoup développé aujourd'hui, c'est un enseignement qui est basé sur la compréhension et pas sur la soumission à des arguments d'autorité. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Il faut le comprendre aussi dans un cadre où on ne peut pas attendre de tout le monde de tout comprendre et de tout savoir. Moi, je vais chez un médecin, je ne sais pas trop ce qu'est la physiologie de mon corps. Hein, j'en sais des choses que j'ai apprises à l'école, finalement. Bon, je suis fils de médecin. Mais c'est... on ne peut pas demander à tout le monde de tout savoir sur tout. Donc il faudra développer des pédagogies qui soient adaptées à une compréhension incomplète des choses, mais une compréhension suffisante pour être un citoyen. Ça, je pense qu'il y a une réflexion pédagogique sur ce que ça veut dire, une compréhension incomplète, mais suffisante pour être un citoyen. La deuxième chose, c'est développer des pédagogies qui soient ouvertes sur des approches conceptuelles. Alors, ça, c'est un écho très direct de ce que je disais sur le fait que les scientifiques, souvent, sont moins formés que d'autres dans la recherche d'emploi sur ces problèmes-là, parce qu'on a quand même besoin d'accompagner toujours la science d'une approche qui soit conceptuelle, qui soit historique, qui soit épistémologique, qui soit aussi, et c'est souvent ces approches-là qui permettent aussi de faire le lien entre disciplines. Et dans l'enseignement que l'on donne souvent dans nos universités scientifiques en particulier, on a du mal à associer ces approches-là à l'approche strictement calculatoire et scientifique. Et bon, ce qui va un petit peu de soi, c'est de s'adapter à des objectifs, à des publics très différents. J'y reviendrai dans le transparent d'après, qui sera le transparent final. C'est que, effectivement, on doit concevoir des enseignements à plusieurs niveaux, hein, qui soient des enseignements qui puissent être compris sur des plans un petit peu différents. Je m'expliquerai un tout petit peu plus après. Alors, dans les contraintes pédagogiques, je crois qu'il y a aussi probablement d'essayer de donner un visage à la recherche, aux chercheurs. Je pense qu'on doit faire passer dans nos enseignements ce qu'est la recherche. Je crois que dans ce qui fait le fait qu'il y a une certaine confiance dans ce que peuvent dire les chercheurs, il y a une capacité à comprendre comment ça fonctionne, à comprendre quelles sont les démarches, à comprendre qui sont les gens qui font cela. Et je dirais que là aussi, ça fait partie en fait de la pédagogie qu'on doit essayer de développer, de donner cela. Et alors, pour, un petit peu dans le désordre, mais pour revenir à ce que je disais avant, je pense que l'histoire de nos disciplines, par exemple, mériterait d'être enseignée de manière forte, comme un élément de lien avec d'autres communautés qui n'ont pas nécessairement une pratique toujours des équations ou de ce qu'on peut faire d'un peu plus difficile dans nos disciplines. Alors pour voir ce qu'on peut faire de plus. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà lieu, mais simplement, elles ne sont pas institutionnalisées, elles ne sont pas systématiques, et même, ça reste souvent des explorations un petit peu partielles. Moi, j'ai eu l'expérience de faire des cours sur plusieurs niveaux pour des étudiants très différents, par exemple des étudiants formés en biologie et puis des étudiants formés en physique, en mécanique des fluides. Le même cours qu'on peut faire en parallèle, sur la même durée, mais avec ou sans équation, mais on peut dire des choses très différentes, on peut intéresser des étudiants très différents. Et je pense que ces pédagogies-là, il faut les développer, il faut les systématiser. Je crois qu'on doit avoir des cours de sciences sans équation pour les non-scientifiques au départ de formation. Ça me paraît très important d'avoir ces pédagogies-là. Alors, il y a utilisé les études à l'échelle des territoires comme un outil éducatif. Alors, de manière plus générale, je pense que tous les retours d'expérience un peu concrets, mais qui mettent aussi en situation des conflits d'intérêts, des conflits d'usage, des décisions difficiles à prendre. Tout ça, ce sont des outils éducatifs extrêmement importants et qu'on n'utilise pas beaucoup dans ce sens-là. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire aussi de manière plus importante aujourd'hui. Il y a ensuite institutionnaliser la pratique des serious games. Alors, je l'ai mis en anglais parce que ça m'a amusé. J'avais participé à des jeux, mais ça a été monté à Sciences Po par Laurence Tubiana et ça s'est développé. J'ai participé à ça en Argentine, donc un pays qui m'est proche. C'était en espagnol, mais on parlait des serious games. Et c'est assez institutionnalisé là-bas et ça l'est assez peu chez nous, en fait. Il y a un rôle vraiment dans l'éducation qui est donné à ces jeux de simulation, à ces jeux de rôle autour d'un sujet donné et qu'on développe assez peu chez nous. Il y a en fait ensuite l'effet des multiplicateurs des MOOC. Alors, Pierre parlait ce matin de ce qu'on peut faire avec les téléphones portables. Je pense que là aussi, on ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire dans ce domaine-là. Et puis, il y a un dernier point que je voulais signaler qui m'est cher, c'est que quand on parle de nos disciplines, quand on parle de comment nos disciplines se sont développées, on est dans une histoire finalement très récente, très évolutive. Moi, l'histoire de la climatologie que j'ai connue quand j'ai commencé, la climatologie d'aujourd'hui, ce n'est pas la même discipline. Depuis, elle a eu une histoire. Cette histoire, on la raconte très peu. Et elle se perd souvent dans nos laboratoires. Elle n'est pas conservée, elle n'est pas écrite. Et c'est dommage parce que je pense que c'est aussi un vecteur d'enseignement précieux dont on ne dispose pas. Voilà. Donc, de manière générale, je n'ai pas voulu être trop théorique, je voulais montrer que dans tous ces domaines, on a beaucoup d'éléments assez de clés assez précises qu'on peut mettre en jeu pour essayer de provoquer une appréhension de ces problèmes qui soit un peu plus différente, qui soit plus ouverte aux controverses, qui soit plus ouverte à des conceptions de débats entre disciplines, de débats entre problématiques. et que finalement, quelquefois, quand même, quand on est enseignant, entre guillemets, sur le terrain, on se heurte à des résistances dont il serait peut-être bien qu'elles soient moins fortes maintenant dans le futur, parce que vraiment, il manque peu de choses pour qu'on fasse beaucoup plus dans l'enseignement de toutes ces disciplines.
Merci. Est-ce qu'il y a dans la salle des questions à Hervé Letreux ou des commentaires, des remarques ? Merci. Donc nous sommes... Pierre, oui.
Les remarques précieuses que tu fais, on peut sans doute les faire dans d'autres pays, au moins des pays développés. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer, un peu en prolongeant les suggestions qui ont été faites par Valérie Masson-Delmotte ce matin, comment est-ce qu'on peut imaginer un travail plus international, plus collectif, pour mettre ça en œuvre au bénéfice des écoles, des enseignants, des enfants?
J'y avais pas souvent réfléchi au niveau international. J'ai entendu ce matin la référence à ce qui se passe à Trieste et l'idée d'un nouveau Trieste quelque part, qui me paraît effectivement une idée intéressante sur ces problèmes-là. En tout cas, je pense que la pédagogie, ça se fait devant, ça se teste devant des élèves, devant des étudiants, et qu'il faut créer des lieux où on peut accentuer un peu cet effort de développement pédagogique. Moi, je suis très frappé, en fait. Aujourd'hui, j'enseigne à Polytechnique, à des élèves qui ont choisi mes cours, et puis à des élèves qui n'ont pas choisi mes cours. Et dans ces élèves qui n'ont pas choisi les cours, on est plusieurs enseignés, on se retrouve, si on n'a pas la carotte d'une note sévère, en fin de module, avec presque plus personne dans les amphis. Hein. Donc, l'enseignement, c'est souvent difficile, et ça rend un peu humble par rapport à ce qu'on est capable de faire. Mais je pense qu'il faut effectivement des initiatives pédagogiques pour essayer de savoir ce qu'on peut, qu'ils soient des tests en grandeur réelle. Oui,
oui, bonjour, merci. Patrice Brudieu, ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche. Jean-Jacques Jouzel a parlé de cours à Sciences Po, cours enseignement supérieur, c'est très bien, les écoles, c'est très bien. Il y a une école quand même qui me paraît importante et où on aurait vraiment besoin de faire quelques cours de base. Si j'en juge par le niveau affligeant de certains anciens élèves...
Je crois que j'ai deviné laquelle, oui.
C'est l'ENA. Est-ce qu'il est prévu de faire un effort de ce côté-là? Merci.
Je ne sais pas répondre à cette question-là, mais voilà.
Alors je n'ai pas la réponse pour l'ENA, mais ce qu'il y a de flagrant, et ce que je voulais rebondir sur une des conclusions d'Hervé sur les méthodes pédagogiques, et pas seulement d'ailleurs à destination des étudiants, mais y compris des gouvernements. On a commencé à préparer la négociation de l'objectif global de l'accord de Paris. Les pays qui étaient le plus favorables à avoir l'objectif de limitation des températures à 1,5 degré, pouvaient être les mêmes qui ne voulaient pas entendre parler, toujours en essayant de traduire ça de façon concrète, à l'idée de décarbonation de l'énergie. Donc c'était comme si c'était deux univers cognitifs complètement différent. Il y a bien sûr des aspects politiques à ça, mais pas seulement. Je crois que ce que dit très très clairement Hervé, que je ressens personnellement vraiment fortement, c'est qu'on a besoin de traduire ces choses qui sont agrégées et quand même très théoriques, y compris quand on parle des questions de probabilité, dans des choses qui soient appréhensibles de façon plus concrète. Il faut qu'on fasse la traduction. Et ce travail de traduction, c'est beaucoup de travail. Ça commence, hein, on a quand même des éléments sur, au fond, qu'est-ce que ça veut dire en dessous de 2 degrés, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue... on commence à comprendre mieux ce que c'est que ce budget carbone. Mais au début, il faut quand même se rendre compte que ces notions qui étaient naturelles pour les scientifiques, par exemple, de raisonner en termes d'enveloppe et de stock de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ne voulaient rien dire pour les gens. Donc après, et c'est d'ailleurs assez flagrant que depuis 1997, les pays négocient avec des principes de justice ou des principes de distribution ou d'efficacité, en réalité complètement déconnectés, non pas du diagnostic, parce que les gens ils commencent à comprendre, mais de ce que ça voulait dire. Et ça, évidemment, il y a la question d'éducation et à tous les niveaux, et de traduction, enfin, on en a longuement parlé avec Hervé et Valérie depuis de nombreuses fois, mais je trouve ça extraordinairement urgent. Et particulièrement si on veut que cet accord de Paris s'applique dans le réel, il faut absolument que toutes ces grandeurs, avec différentes formes pédagogiques, puissent être appropriées et à différents niveaux. Et je trouve que c'est très intéressant de réfléchir sur territoire, aussi bien que sur nation, aussi bien que peut-être, après tout, comprendre. Vous vous souvenez peut-être, on a essayé de lancer l'idée de budget carbone individuel. Bon, encore une fois, ça ne voulait pas dire grand-chose peut-être pour les gens, mais si on commence à traduire ça, après, je crois que ce rapport à l'information scientifique peut un peu changer. Mais j'ai été quand même frappée de voir l'indignation soulevée par « on est pour un degré 5, mais surtout pas, on ne veut surtout pas entendre parler de décarbonation enfin, ». C'était comme une agression.
Merci. Une dernière intervention de Dylan Mackie.
Je m'excuse d'être si au ras des pâquerettes, mais ça, c'est quand même un petit peu lié à cette question de traduction. C'est une expérience personnelle. Au moment même de la COP21, j'étais dans les collines du Rwanda, donc fin novembre, début décembre, dans une réunion avec quelques dames africaines. Et ça me passionnait, évidemment, les questions qui étaient en ce moment-là à Paris. J'ai voulu en parler. Et j'ai parlé d'effet de serre. Et imaginez-vous bien que le nom ne veut absolument rien dire. Parce que quand on vit à l'équateur, on ne sait pas ce que c'est qu'une serre. Donc la traduction, c'est vraiment très, 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 très nécessaire. Et ces personnes n'étaient pas sottes, même loin de là, mais elles ne savaient strictement mais rien. Elles avaient été à l'école, etc. Donc en faisant un cours en une heure et demie, elles avaient tout à fait saisi. Mais c'était pas dans la culture. Et je pense qu'un des problèmes, c'est vraiment le vocabulaire et la traduction. Vraiment.